Vous êtes sur RTL.
10h15, 11h30, RTL vous régale.
Jean-Michel Zeka.
Eh ben bonjour, bonjour
eh ben
à
oui,
tous.
Vous étiez à la bourre.
Eh oui. Ah ben j'étais à la bourre.
Ben oui.
Et bienvenue dans RTL vous régale. Le temps d'un café, que voulez-vous que je vous dise?
Pourtant on a crié dans les couloirs. Hein.
Ouais, mais j'étais au bout, je vous entendais pas, que voulez-vous? C'est ça aussi la radio en direct. En route pour l'Auvergne les amis, avec pour destination principale... Clermont-Ferrand, dont vous apprendrez quel fut le point de départ des croisades, quelle fut aussi la capitale de la France pendant une journée, et quelle est la troisième ville du pays en nombre de caves. On vous explique tout dans quelques minutes. Alors les amis, entre rosée de Coran, pâte de fruits d'Auvergne et Châtel-Don, je tiens à vous dire qu'en l'absence de Louana cette semaine... Une de ses grandes amies va prendre le flambeau dans ce défi frigo. À côté duquel, non. Je vous le dis. Alors, Jean-Sébastien, je vous annonce que le défi frigo de ce matin, à côté duquel l'éruption du Vésuve va faire figure de fondue bourguignonne, ça va être le moment de le vivre à plein pot. Je vous donne trois indices sur la personnalité de celle, je dis bien de celle, que vous allez affronter. Elle est blonde. Je peux ajouter qu'elle est top. Et elle a aussi un... très bel accent qu'elle a gardé, ça lui va à merveille. D'accord. Si vous avez une petite idée de qui vous allez affronter, vous nous dites, si pas, on en reparle tout à l'heure. Celui qui, à l'image du bonhomme Michelin né à Clermont-Ferrand, a fait sien le slogan « Nuc est bibendum », c'est-à-dire « il est l'heure à présent de boire » et pas que de la Volvic, va faire un bout de chemin avec moi ce matin. Jean-Sébastien Petit-Demange, merci beaucoup.
Bon café,
Jean-Michel. Oui, c'est ça, oui. On ne peut compter que sur soi-même, évidemment.
J'embrasse Louana qui vient de nous envoyer un SMS, on pense à toi aussi, on t'embrasse, tu reviens vite, tu te débarrasses de cette saloperie de virus.
Mais qui va mieux quand même.
Oui.
Je vous parlais du défi frigo, rendez-vous tout à l'heure donc après les infos d'11h pour nous proposer un ingrédient de votre frigo. 1 minute 30 pour vous proposer une recette originale à base de cet ingrédient pour jouer avec nous, 3210 par téléphone, ou alors par SMS en envoyant le mot « régal » suivi de votre message au 64 900 à gagner ce samedi matin, une carte cadeau Lidl d'une valeur de 300 euros. Et puis dans la playlist RTL Vent Régal de ce matin, Philippe Lafontaine. Avec Cœur de loup, ajoutez-y la délicieuse Sia. Courage to change et l'excellent Céphase.
On a mangé le soleil, on a mangé les étoiles.
Céphase, on a mangé le soleil. RTL vous régale en terre d'Auvergne. C'est aussi un voyage dans l'histoire de la planète Terre et dans ce qu'elle a de plus majestueux. On vous souhaite un très bon week-end sur RTL. C'est parti jusqu'à 11h30. Merci de passer votre samedi matin avec nous. Oui, j'ai compris. Allez, vas-y mon filou.
Parle-t'en tout lui dire, parle-t'en tout lui dire. Juste assez pour tenter la satire qu'elle sent que je veux lui plaire. Sous le fil de l'emballage, la lubie de faux filet, la folie de rester sage si elle veut ou pas l'embrasser. Quand d'un coup d'elle se déplume, mon œillet lui fait de l'œil. Même ululé sous la lune ne me fait pas peur, pourvu qu'elle veille. Je n'ai qu'une seule envie, me laisser tenter.
La victime est si belle et le crime est si gai.
Pas besoin de beaucoup, mais pas de peu non plus. Par le biais d'un billet fou, lui faire savoir que je n'en peux plus. C'est le cas du kamikaze, c'est l'ABC du condamné. Le légionnaire qui veut l'avantage des voyages sans s'engager. Et les cifres des skis sous mes bordées d'amour. Je suppose qu'elle suppose que je l'aimerai toujours. Le doigt sur l'aventure, le pied dans l'inventaire. Même si l'affaire n'est pas sûre, ne pas s'enfuir, ne pas s'en faire. Je n'ai qu'une seule envie.
Si belle et le crime est si gai. Le swing, c'est le coup de gong du King Bong.
Tulu, la belle eau, Guédéli, Sandurie, c'est le coup de vent du Kimban.
Pas le temps de mentir, ni de quitter la scène. Yep, elle aura beau rougir, de toute façon, il faut qu'elle m'aime. Je n'ai qu'une seule envie, me laisser tenter.
La victime est si belle, et le crime est si gai.
Pas le temps de tout lui dire, ni de quitter la scène. Yep, elle aura beau rougir, de toute façon, il faut qu'elle m'aime. Pas le temps de tout lui dire,
de l'eau,
ni de quitter la scène.
Et
elle aura beau rougir, de toute façon, il faut qu'elle m'aime. Pas le temps de tout lui dire, ni de quitter la scène. Et elle aura beau rougir, de toute façon, il faut qu'elle m'aime. Pas le temps de tout lui dire, ni de quitter la scène. Et elle aura beau rougir, de toute façon, il faut qu'elle m'aime.
1989, Cœur de loup, le classique du répertoire du Belge, Philippe Lafontaine. Bienvenue dans RTL Vous Régale, direction Clermont-Ferrand, avec évidemment les infos étonnantes de la région. On démarre pareil que tous les samedis, les choses que vous ne saviez pas, c'est dans un instant sur RTL.
Restez bien avec nous, RTL Vous Régale revient tout de suite. Votre week-end avec RTL. Jusqu'à 11h30, RTL vous régale.
Avec Jean-Michel Zeka.
RTL vous régale, le chemin le plus court pour aller de la machine à café à Clermont-Ferrand. Voilà, c'est l'idéal. Et c'est vrai, Jean-Sébastien, que la question peut paraître étonnante, mais quand on voit que juste à côté de Clermont-Ferrand, on trouve Montferrand, on peut légitimement se demander pourquoi. Il y a forcément une histoire, j'imagine.
Ben oui, la ville de Clermont-Ferrand, c'est le fruit d'un mariage forcé entre Clermont et Montferrand. C'était en 1731 et c'est carrément Louis XV qui l'a ordonné. Alors, en 848, la ville prend le nom de Clermont, nom qui fait référence au château de Clarus Mons, montagne claire en latin. Tout ça dure 8 siècles, et c'est 8 siècles de rivalité entre les nobles et les religieux qui se regardaient un peu en chien de faïence. Chacun était retranché à Clermont et à Montferrand. Et donc Louis XV a mis fin à tout ça pour asseoir son pouvoir.
Il a bien fait. Alors il y a un autre fait historique, on dit que Clermont est une ville croisée. Et la preuve se trouve sur la place de la Victoire avec la fameuse statue trônant sur la fontaine. Il s'agit d'Urbain II. Un pape de la fin du XIe siècle.
Absolument, Urbain II qui a été pape entre 1088 et 1099. Et il est venu à Clermont pour lancer le premier appel aux croisades en 1095. Cet appel de Clermont a lancé des centaines de milliers de personnes, riches, pauvres, paysans, seigneurs, vers la Terre Sainte. Et ces croisades, ça quand même, c'est une affaire qui a duré quand même plus de 2 siècles.
Jean-Seb, le Puy-de-Dôme qui veille sur Clermont-Ferrand depuis toujours est un volcan. Ce qu'on sait moins, en revanche, c'est que la ville elle-même était construite sur un cratère et que tout le centre-ville de la place de Jaude à la place de la Victoire, en passant par la cathédrale, bah, finalement est un peu en sursis du coup.
Ouais, on peut présenter les choses de cette façon. Néanmoins, il y a quand même des avantages. Parce que comme c'est construit sur de la roche volcanique, qui est une roche solide mais très facile à travailler, bah, du coup, Clermont est devenu un véritable gruyère parce qu'on a creusé des caves sous les maisons, sous les immeubles, caves qui peuvent plonger à 15-20 mètres de profondeur, ce qui fait 4 niveaux sous la maison, ce qui n'est pas négligé.
Et ces caves qui ont été utilisées pour entreposer du vin ou pour maturer des fromages. Ouais. Elles furent des abris, c'est important de s'en souvenir de ça, pendant la Seconde Guerre mondiale, pendant le bombardement des usines Michelin notamment. Plus de 17 000 personnes ont pu trouver refuge dans ces fameuses caves.
Imaginez qu'on en compte plus de 500. Dans 80 rues du centre-ville, il en resterait au moins autant qui n'ont jamais été explorées. Et Clermont-Ferrand est considéré comme la 3e ville de France en nombre de caves. En tout cas, c'est eux qui le disent. Ne me demandez surtout pas quelle est la 1ère ou la 2e ville.
Je m'en garde. Voilà. La guerre de 39-45 qui a fait changer le destin de Clermont-Ferrand. C'est important de le dire. La ville est devenue la capitale du pays. C'est drôle. Pendant une journée seulement, on est le 29 juin 1940, quelques jours après l'armistice. Coupé en deux à cause des conditions d'occupation allemande, le gouvernement se cherche une capitale en zone libre. On envisage Bordeaux, Toulouse, Marseille, et ben
très,
non.
Et très vite, le maréchal Pétain jette son dévolu sur l'Auvergne. Parce qu'il y a un réseau ferroviaire qui est important. une population qui a la réputation d'être calme, et Clermont est désignée pour accueillir l'administration française. Tout ça durera une seule journée. C'est finalement à Vichy, dans l'Allier, un peu au nord, que Pétain et tout le gouvernement s'arrêtent le 30 juin. Les hôtels étaient beaucoup plus nombreux pour loger tout le monde. Et surtout, en plus du train, il y avait un réseau téléphonique qui, à l'époque, était un des plus importants de France dans cette région.
Il y a des choses invraisemblables dans cette région, parce que dans les alentours de Clermont-Ferrand, il y a forcément des histoires de pneus. Ah oui. Et beaucoup de surprises.
Alors, Michelin avant Michelin, par exemple, c'était une entreprise qui faisait du sucre, essentiellement. Et puis, l'épouse d'un des patrons de la maison est la nièce d'un certain McIntosh. Ce McIntosh est un savant ayant mis au point l'imperméabilisation du caoutchouc. L'entreprise met du coup quelques objets en caoutchouc à son catalogue. Néanmoins, il faudra attendre que John Dunlop invente le pneu, peaufine cela grâce à un procédé, celui de la vulcanisation du caoutchouc, qui a été inventé par Charles Goodyear, Dunlop, Goodyear, vous voyez, tout se met en place. Et l'entreprise Daubray, rachetée par les frères Michelin en 1889, entre dans le jeu avec la mise au point du pneu démontable, rendant possible la réparation des crevaisons.
Et en 1900, André et Édouard Michelin, alors ils ont une idée. Une idée qui va marquer l'histoire de l'automobile d'abord et de la restauration par la suite. Ils inventent un objet publicitaire absolument génial. On l'appellera le guide Michelin.
Première édition tire à 35 000 exemplaires. Guide offert gracieusement aux chauffeurs avec l'achat de pneumatiques Michelin. Oui. Un guide qui en fait illustre le pari visionnaire des frères Michelin. Il misait sur le développement de l'automobile à une époque où le voyage relève quand même encore de l'épopée au début du XXe siècle.
Carrément. Un guide dans lequel on trouve tous les renseignements utiles à un chauffeur qui voyage en France. Alors, pour trouver du carburant, voilà. Pour faire réparer son véhicule. Et on y indique les lieux où on trouve alors un bureau de poste, un bureau de télégraphe, de téléphone, etc. Et puis, au départ, c'est ça.
Exactement. Et au fur et à mesure, on y ajoute des adresses de médecins, des cartes, des plans de ville, des adresses pour se loger et pour manger. Ce guide devient payant en 1920. La première étoile date de 1926. C'est en 1933 que le guide décerne pour la première fois ses trois étoiles. Et c'est le restaurant de la mère Brasier ainsi que la maison Pic à Valence qui sont les deux premiers trois étoiles Michelin.
Et puisqu'on en parle, Jean-Sébastien, j'en profite pour vous rappeler que tout à l'heure, dans le défi frigo, vous affronterez quand même quelqu'un qui a réussi l'exploit de passer de 3 à 5 étoiles Michelin. Je voudrais pas, puisqu'on parle de pneus, vous mettre la pression, mais c'est tout comme. Alors, on registre des histoires de voitures. On trouve celle de l'invention d'un concept pendant une foire agricole. Nous sommes à la fin des années 30.
Ouais, j'adore cette histoire. C'est, ouais. On est juste à côté de Clermont-Ferrand, dans une foire agricole. Pierre Boulanger est un des gérants de Michelin. Il est devenu PDG de Citroën. Il a eu l'idée sur la foire de Lambda d'une voiture destinée aux paysans de l'époque. Le cahier des charges, il est très simple. Transporter deux personnes en sabots, 50 kg de pommes de terre ou un tonneau de vin, rouler à 60 km/h en consommant 3 litres au 100, tout cela avec une suspension permettant de traverser un champ labouré avec un panier d'œufs sans en casser un seul.
J'adore ce cahier des charges, c'est ça, la deux chevaux venait d'être conçue, fabriquée de 1947 à 1980. Bon, allez, aujourd'hui, je le rappelle encore une fois, si vous arrivez dans RTL, vous régale, vous allez vivre un défi frigo absolument exceptionnel. Jean-Seb, ici présent, va devoir affronter... Non mais c'est historique, vous allez comprendre pourquoi, parce qu'on a une chance immense aujourd'hui. Vous allez affronter une blonde redoutable, mais pas la même que d'habitude. Vous la connaissez tous, elle est avec nous dans quelques minutes. Vous allez nous donner un ingrédient de votre frigo, ils auront 1 minute 30 pour imaginer une recette. Rendez-vous juste avant les infos d'11h, la France retient son souffle. Et vous allez jouer pour une carte cadeau Lidl d'une valeur de 300 €. Pour jouer avec nous, c'est facile, 3210 par téléphone ou alors par SMS, vous envoyez le mot régal suivi de votre message au 64 900. Une courte pause et dans un instant nous démarrons cette balade coup de cœur aux alentours de Clermont-Ferrand. RTL vous régale, la balade gourmande du week-end.
Tout de suite, retour de RTL vous régale. 10h15, 11h30, RTL vous régale.
Avec Jean-Michel Zeka, Louana Belmondo et Jean-Sébastien Petit-Demange.
RTL vous régale. Allez, un petit coup de boîte à punaise le samedi matin, ça fait toujours plaisir. André Vercheren.
Comment vous dites ?
Vercheren.
Ah, d'accord.
Je le francise, parce que vous, vous dites pas Verscuren en France. Moi qui suis d'origine belge, je peux vous dire qu'on dit André Verscuren.
Ah oui.
Tentez-le pour voir Jean-Seb d'ailleurs.
Non.
Faites-moi plaisir.
Je cherche un café, moi.
Bon, allez, Clermont-Ferrand, vous auriez pu nous parler du parc naturel régional des volcans, de ses paysages sublimes. Bah, tiens, pour une fois, vous allez faire original.
Je vais surtout faire coup de cœur. On va partir pour le, au nord de Clermont. Première étape à Rion. Rion, c'est une ville perchée sur son éperon rocheux qui a toujours été une ville naturellement défendue. Alors là, on découvre la tour de l'horloge du 14e. Il y a la maison des consuls du 16e qui affiche une rare élégance. Et certains font le voyage pour découvrir le musée Mandet. Les fans d'art déco, de design l'adorent. On découvre en fait toute une histoire de la peinture européenne du 15e au 20e siècle. C'est un musée totalement méconnu, extraordinairement beau, qui date de 1866. Et ça, ça fait partie des petits musées à cocher. Quand tout ça va rouvrir, il faut absolument foncer là-bas. Ensuite, on fait quelques kilomètres et on arrive à Volvic. On connaît tous l'eau de Volvic, filtrée naturellement par des couches de cendres et de basalte. Ça, c'est l'or blanc de ce coin d'Auvergne. Il faut pas oublier l'or noir également. La pierre de Volvic, légère, inaltérable, qui a servi à construire une grande partie de Clermont-Ferrand, notamment la cathédrale. La carrière de pierre a été exploitée dès le Moyen-Âge et la grotte de la pierre est une ancienne carrière creusée dans une coulée de lave. Et là, on va vous raconter in situ toute l'épopée des générations de carriers, de tailleurs de pierre, de sculpteurs qui se sont succédés là-bas. On fait une petite pause à Châtel-Guyon, station thermale, parce qu'il y en a plusieurs dans la région évidemment, avec quelques vestiges d'un passé prestigieux, comme les grandes thermes. C'est un bâtiment incroyable, à la décoration Belle Époque, 200 mètres de long sur 9 mètres de haut. C'est totalement étonnant. Et puis ensuite, cap au sud-ouest, Pont-Gibaud, c'est la frontière avec le parc des volcans d'Auvergne, justement. Village connu parce que jusqu'à la fin du 19e, il y avait des mines de plomb argentifère dont il reste quelques vestiges et ils ont fait la fortune de la cité. Mais la star reste le château Dauphin. Il date du 6e siècle, ce château. Il a été reconstruit en pierre de lave au 12e. Et d'un château fort, les siècles et les hommes en ont fait un château de résidence et d'apparat. Il n'empêche qu'il reste un donjon cylindrique de 33 mètres de haut qui domine le site, qui rappelle de manière criante les origines de ce lieu émouvant. Et je peux vous assurer que la pierre de lave au milieu du paysage, comme ça, sur un donjon de 33 mètres, c'est très étonnant. C'est totalement surprenant. Et c'est un coin, c'est le nord de Clermont, tout ça, on n'y va pas souvent. On va effectivement plutôt voir le Puy de Dôme, voir les volcans. Montez vers le nord, vous allez voir, il y a très belles choses.
RTL vous régale tous les samedis, 10h, 11h30 sur RTL. C'est du patrimoine, c'est de la cuisine, et qui dit cuisine dit produit. Que faut-il rapporter de Clermont-Ferrand? On va tout vous dire dans un instant sur RTL. Juste après Courage to Change, voici Sia.
I want to leave you better. I want my life to matter. I am afraid I have no purpose here. I watch the news on TV, abandon myself daily. I am afraid to let you see the real me. When it falls, when it falls, we don't have to stay stuck in the
I'm not afraid to
Change, c'est le nouvel extrait de l'album de Sia, l'album Music, album qui est également la bande-son du film du même nom. C'est le premier film de Sia en tant que réalisatrice. RTL vous régale, nous sommes de retour dans un instant avec le panier de produits à rapporter de Clermont-Ferrand. On vous explique tout dans un instant. Très bon début de week-end sur RTL.
Tout de suite, retour de RTL vous régale avec Jean-Michel Zeka. RTL.
C'est une recette du pays. Ça s'appelle...
RTL vous régale.
Et c'est quoi qu'il y a dedans, là ?
Avec Jean-Michel Zeka.
Et comme tous les samedis matins de RTL vous régale, on va sortir le panier de l'émission pour tout simplement le remplir et vous dire ce qu'on peut rapporter d'incontournable de la région de Clermont-Ferrand. J'en sais, bon, on va pas se mentir, c'est pas la région la plus évidente pour rapporter du vin. Et pourtant,
Ça vous a surpris, hein, ça, quand vous avez vu ça.
J'avoue que je ne connaissais pas le rosé de Coran, par exemple.
On est sur l'un des versants du Puy de Coran, en Limagne. Luana dirait c'est la fameuse Toscane Auvergnate. On trouve un des plus anciens vignobles d'Auvergne là-bas. Le rosé de Coran, en fait, il reste lié à la convivialité du matin, à l'heure des tripes, à l'heure des casse-croûtes entre copains. C'est un rosé extrêmement subtil qui est fait à base d'un seul cépage, le Gamay. Il a la typicité de son terroir de basalte et de roches volcaniques. Un rosé sec qui bénéficie d'une AOC. Une AOC générique qui est celle des Côtes d'Auvergne. Et il y a quatre autres crus, le Boud, le Chanturgue, le Châteauguay et le Madar, qui sont des crus rouges, issus d'assemblages de Gamay et de Pinot Noir. Et c'est vraiment des vins à découvrir, des vins qui sont montés en flèche au niveau de la qualité depuis quelques années. Et c'est... Mais ça vaut rien du tout, quoi.
Et on sait que vous êtes resté un grand Gamay. Les pâtes de fruits de la région, c'est aussi une vraie tradition.
Des gourmandises qui sont confectionnées à base de fruits cuits avec de l'eau, du sucre de betterave, évidemment. Il y avait une sucrerie très célèbre, la sucrerie de Bourdon, créée en 1837 par le duc de Morny, quand même, le demi-frère de Napoléon III. Elles sont réalisées autour de Clermont, connues sous le nom de pâtes d'Auvergne. Il y a une recette déposée depuis 1947 et les confiseurs auvergnats s'obligent à utiliser au moins 65% de pulpe de fruits pour la confection de ces pâtes de fruits. La sucrerie de Bourdon vient de fermer, malheureusement, à la fin de l'année dernière. C'est un sale coup pour les pâtes d'Auvergne, mais je suis sûr que les confiseurs vont rebondir.
Et puis, on fait quelques kilomètres et il y a de l'eau de Volvic, forcément, aussi, non ?
Alors, il y a l'eau de Châteldon.
Oui, alors, avant toute chose.
Volvic, c'est clair. Là, on est juste à côté de Clermont. Châteldon, c'est une eau totalement exceptionnelle. Elle a un goût raffiné, elle a une pétillance très fine qui lui donne de la fraîcheur. Elle est considérée par les dégustateurs d'eau comme un grand cru d'eau. Une eau qui jaillit naturellement à 6 degrés après s'être enrichie en bicarbonate, en calcium, en magnésium. Et on raconte que cette eau gazeuse naturellement était transportée en bonbonne depuis l'Auvergne jusqu'à la table de Louis XIV à Versailles. Fagon, son médecin, l'aurait recommandé au roi justement pour ses vertus médicinales et surtout ses vertus digestives. Et alors sachez que l'eau de Châteldon est rare, c'est pratiquement plus cher qu'une bouteille de rosé de Coran et ça ne se vend qu'en bouteille en verre.
En verre, absolument. De l'ail rose aussi dans la région, de l'ail qui se cultive depuis le 14e siècle à Billom et aux alentours.
Alors c'est Billon.
Billon, pardon. Celle-là est pour moi. Celle-là est pour
c'est
moi.
Comme vers Suresnes. Les terres argilo-calcaires favorisent la culture de l'ail dans ce secteur géographique, l'ail rose.
qui se fait beaucoup remarquer parce que c'est une culture qui est inscrite au patrimoine culturel immatériel de la France. Mais il y en a juste une cinquantaine d'hectares et c'est vraiment un ail exceptionnel. Je peux vous assurer qu'une recette de soupe à l'ail de Billon, c'est un truc... Mais c'est une tuerie que c'est bon. Vous prenez juste deux gousses d'ail comme ça. Vous amenez à ébullition ces gousses d'ail dans moitié eau, moitié lait. Vous faites cuire doucement pendant 10 minutes. Vous videz l'eau. Vous retirez la peau des gousses juste en les pinçant avec le bout des doigts. Vous faites brunir cette pâte d'ail rose dans de l'huile d'olive. Alors, mais surtout bien. Pas la brûler. Vous mettez 2 litres pour faire un bouillon juste avec des œufs à moelle. 2 litres d'eau, 2 œufs à moelle, une feuille de laurier. Vous mettez 3-4 pommes de terre pour faire une petite purée. Mouillez le mélange d'ail obtenu avec le bouillon. Vous ajoutez les pommes de terre écrasées. Vous remuez. Vous remettez sur le feu quelques minutes. Vous avez une soupe à l'ail.
Et on est bien. On est bien. C'est ça, RTL, vous régale. Jean-Seb, je ne peux pas concevoir qu'on soit au cœur de la France et qu'on ne rapporte pas de fromage. On va en parler dans un instant. C'est vrai qu'on connaît le Cantal, le Saint-Nectaire, la Forme d'Ambert, etc. Il y a le Bleu d'Auvergne, il y a le Salers. Mais,
les 5 AOP.
C'est ça. Mais derrière eux, derrière ces fromages-là, il y en a peut-être de moins connus.
Il y a une foultitude, une palanquée de fromages moins renommés, mais qui font la richesse de tout le patrimoine culinaire de la région. Et effectivement, on va en parler avec un grand amoureux, un grand spécialiste de tous ces fromages, c'est Olivier Nives.
Qui n'est pas fromager, qui est artiste fromager. On s'en parle dans un instant dans RTL vous régale.
Restez bien avec nous. RTL vous régale, revient tout de suite.
RTL. 10h15, 11h30, RTL vous régale.
Jean-Michel Zeka.
Au cœur de la France ce matin dans RTL vous régale, nous sommes à Clermont-Ferrand et c'est vrai qu'on ne pouvait pas imaginer faire notre marché à Clermont sans pousser la porte de cet artiste fromager qui est Olivier Nives. Bonjour.
Bonjour.
Et bienvenue sur RTL. Je dis souvent dans cette émission, Olivier Nives, que les artisans qu'on reçoit font leur métier, exercent leur passion grâce à des histoires de famille. C'est votre cas aussi, parce que c'est, je crois, votre grand-mère qui vous a transmis cette passion du fromage.
Oui, ça reste un peu cliché, mais c'est vrai que c'est elle qui m'a porté des fromages de son fromager et m'a fait découvrir plein de produits. Oui.
Alors vous, votre boulot, votre credo, si j'ose dire, c'est de mettre en avant, on en parlait, des productions moins connues du grand public. C'est vrai que quand on vient chez vous, il faut se laisser guider en fait. Alors là, évidemment, il y a les grands classiques, mais il n'y a pas que ça.
Oui, il y a bien sûr la présence des AOP et des labels reconnus, mais c'est vrai qu'après, j'aime bien faire découvrir ce que je découvre au gré de mes pérégrinations dans les territoires, en fait.
C'est quoi un bon fromage pour vous ?
Un bon fromage, c'est un fromage qui a du goût, déjà. C'est très important pour moi. J'aime les fromages affinés, bien affinés, donc bien typés. Et puis, qui peut avoir, qui donne du plaisir, en fait. C'est celui qui va nous faire vibrer à chaque fois qu'on va en manger un peu.
Vous portez une attention toute particulière à l'esthétisme de votre présentation en boutique. C'est important pour vous, hein ?
Ben oui, c'est de la mise en valeur. C'est de valoriser le travail qu'ont fait les producteurs sur leurs produits et de réussir à en mettre le plus en avant possible pour qu'il soit agréable à la vue et que l'odorat il donne envie d'y goûter.
C'est ça. L'idée, c'est de pas mettre un petit morceau de comté alors qu'on peut disposer une roue.
L'idée, oui, c'est de représenter le fromage comme il doit être représenté, c'est-à-dire le plus possible dans son volume, pour montrer les différences de forme, de grandeur, et c'est ce qui est intéressant, parce que c'est ce qui est beau, en fait.
C'est important peut-être de se rappeler le travail qui est en amont, parce qu'on achète du fromage, on le déguste, on le consomme, c'est facile, mais on ne se rend pas toujours bien compte du boulot qu'il y a derrière pour faire ces bons fromages. Il y a les animaux d'abord.
Il y a les animaux, oui, ça commence par là. Ça commence même par les pâturages. Donc l'importance des pâturages et puis est aujourd'hui de plus en plus revalorisée donc par les producteurs. Un vrai travail avec les animaux, un soin apporté aux animaux, parce que ça faut pas le négliger. On n'est pas obligé de travailler comme des sauvages. Et justement, il faut apporter un soin aux animaux qui vont bien manger, bien produire du bon lait et donc qui va nous permettre de produire du bon fromage. Donc ça, c'est le gros travail des producteurs. Et puis par la suite, pouvoir, nous, dans les caves, les affiner en tant qu'affineurs, de pouvoir leur donner tous les arômes possibles.
Tous ces fromages, Olivier Nives, qu'on trouve un peu partout, dans tous les terroirs d'Auvergne et ailleurs, mais comme on est autour de Clermont-Ferrand, Il y a évidemment les 5 AOP, mais c'est justement tous ces terroirs, tous ces prairies, ces vaches qui vont manger de l'herbe aux différentes saisons qui vont donner les spécificités de ces petits fromages pratiquement locaux, hein.
Oui, ça reste vraiment de l'image du terrain au plus proche, en fait. Justement parce qu'il va être dans des petites productions qui vont être bien spécifiques, sur des lieux bien spécifiques. On a la chance d'être dans une région volcanique avec des terroirs très différents, donc ça va avoir son influence. On a le climat qui va avoir son influence. Et tout ça va donner en fait des produits d'exception, mais surtout des produits très spécifiques. En fait.
Moi, j'ai été bluffé la première fois que j'ai goûté du gapron dans un resto à Chamalières, au Radio, pour ne pas le citer. Ça a été une révélation pour moi.
On précise ce que c'est le gapron ?
Oui, le gapron, c'est un fromage très ancien, en fait, qui est fait donc à la base avec du petit lait, parce que le gapron, ça veut dire gap en patois. Aujourd'hui, c'est fait avec du lait entier, parce qu'on aime le lait entier, on aime un peu la matière grasse. Et puis donc, comme c'était fait avec du petit lait, c'était un peu aigre, on a rajouté donc du poivre et de l'ail de Billon, qui est une appellation aussi d'ailleurs. Et puis, ça a donné des fromages qui sont crémeux et qui vont avoir ce côté aillé et poivré qui sont très agréables.
Olivier Nives, on dit souvent qu'il y aura un avant et un après à cette crise de la Covid. Est-ce que vous avez le sentiment, vous, que les gens achètent des fromages de manière différente ? Est-ce que le grand public s'intéresse de manière un petit peu plus pointue, peut-être à la provenance, à la manière dont tout ça est fabriqué ?
Je pense que c'était quelque chose qui était déjà dans l'air du temps, mais c'est vrai qu'on accentue le fait d'aller chez son commerce de proximité, parce qu'on connaît, nous, nos producteurs. Moi, je connais mes producteurs individuellement, je connais les produits, je connais leur méthode de fabrication. Donc j'ai une assurance de mon travail, en fait, et de ce que je suis en train de présenter aux clients. Et je pense que c'est ça qui est valorisant et que les gens vont rechercher de plus en plus, oui.
Et c'est une crise qui a eu un impact sur votre activité aussi, parce que je crois savoir que vous êtes considéré comme un restaurant, donc vous n'avez pas pu proposer vos compositions sur place.
Alors oui, il y a un impact aussi, parce qu'effectivement, je fais sur place justement ce moment de partage où j'essaye de présenter un maximum de produits et d'offrir une palette, parce que c'est presque une palette de goût et de variété. Et effectivement, cette activité-là, pour l'instant, est en stand-by.
Et donc, vous avez imaginé les fameux plateaux apéro, ça fonctionne bien, des apéros à 2 à 4?
Oui, ça fonctionne, parce qu'effectivement, on a retranscrit en fait cette idée à pouvoir l'emporter chez soi et le faire un peu chez soi, un peu plus dans l'intimité. Mais c'est vrai que pour de garder toujours l'idée de la variété et du goût, en fait.
Et puis, on en parle tous les week-ends dans RTL Vous Régale. Et Dieu sait si vraiment on a envie de vous soutenir, les restaurateurs et tous les artisans. La bonne idée, c'est ChronoFresh aussi, ça a solutionné pas mal de problèmes.
Oui, c'est une belle solution pratique qui permet effectivement d'envoyer des produits et de justement pouvoir accéder à ces produits via les artisans et via ChronoFresh. Ouais.
Olivier Nives, artiste fromager, mille merci d'être passé dans RTL Vous Régale, nous faire un petit coucou, ça nous a fait vraiment plaisir.
Un grand merci à vous.
Olivier, je vais quand même vous poser la question. S'il y a un fromage d'Auvergne qu'il ne faut surtout pas rater dans les fromages qu'on ne connaît pas, ce serait lequel ?
C'est toujours... Dans l'instant, parce que je trouve qu'elles sont belles en ce moment, c'est des formes de Rochefort, c'est des petites formes qui sont faites au-dessus de Rochefort-Montagne. Et là, je trouve qu'on arrive sur des affinages qui sont sympas avec 4-5 mois d'affinage, donc des pâtes qui sont assez beurrées et assez parfumées. Ouais.
On va faire ça.
Et en plus, Jean-Seb, la pâte beurrée, ça vous connaît. Olivier, mille merci, bon week-end à vous, à bientôt.
Merci à vous.
Allez, on se retrouve dans un instant avec le défi frigo de ce samedi matin. Et voilà. En ce samedi 6 mars 2021, un défi frigo qui va faire date. Je vous explique pourquoi dans moins de temps qu'il n'en faut pour le dire. A tout de suite sur RTL.
Tout de suite, retour de RTL vous régale avec Jean-Michel Zeka. RTL. Jusqu'à 11h30, RTL vous régale.
Avec Jean-Michel Zeka.
Et à mes côtés, Jean-Sébastien Petit-Demange, en l'absence de Louana, qui nous écoute d'ailleurs et vient de nous envoyer un très gentil message. On lui fait un gros bisou et on lui souhaite un prompt rétablissement selon l'expression consacrée. Jean-Sébastien, Louana n'étant pas là, il nous fallait un adversaire à la mesure de votre talent.
Vous êtes dégonflé, hein, je vois.
C'est-à-dire que je ne veux pas pouvoir vous affronter et vous ruiner tous vos espoirs tous les week-ends.
Vous connaissiez qu'un candidat.
Non, vous allez voir, je vais vous surprendre. Parce que je vous ai dit tout à l'heure, c'est une de ses amies qui la remplace aujourd'hui au pied levé, Louana. Vous avez compris ou pas ?
Ouais.
Elle a réussi l'exploit de passer de 3 à 5 étoiles Michelin.
D'accord.
Jean-Sébastien, vous affronterez ce matin la deuxième femme la plus récompensée par le guide rouge. Oui. Vous affronterez ce matin celle qui fait partie du jury de Top Chef sur M6 depuis 2015.
Bah tiens.
Vous aurez une adversaire de taille mondiale, je dois vous le dire. Bonjour Hélène Darroze.
Bonjour.
Vous ne pouvez pas savoir le bonheur que j'ai d'annoncer qu'Hélène Darroze va affronter Jean Seb dans le défi frigo aujourd'hui. C'est une première dans l'histoire d'RTL. Vous régale. D'abord, merci pour Louana.
Bonjour.
Hélène Darroze, c'est vrai que ce défi frigo pourrait paraître disproportionné.
Je ne suis pas sûre. Moi, j'ai beaucoup de... Non, je suis pas sûre. Je pense que ça va être un très beau match.
Non, mais ça, je vous le dis, ça va être un très beau match, d'autant que vous ne connaissez pas ni l'un ni l'autre l'ingrédient dont fera l'objet ce défi frigo. Un ingrédient à cuisiner en 1 minute 30, une recette. Est-ce que c'est quelque chose, est-ce que c'est un exercice auquel les grands chefs, même si je sais que vous n'aimez pas le terme de chef, Hélène, on va vous appeler Hélène et pas chef, parce que vous n'aimez pas ce côté militaire de la cuisine. Est-ce que c'est un exercice auquel vous vous livrez avec vos collaborateurs, le fait de devoir exécuter, imaginer des choses très rapidement?
Oh non, nous, en général, on prend toujours le temps, quoi. Ça, c'est plutôt c'est plutôt Top Chef. C'est plutôt à Top Chef que, voilà, on découvre un garde-manger, on découvre un thème d'épreuve. C'est pas moi qui imagine, c'est les candidats, mais on est toujours là quand même pour après les guider, les coacher. Donc, c'est plus dans Top Chef qu'on est soumis à ce genre de défi que dans nos restaurants.
Allez
ou
vite,
parfois, par contre, à la maison.
Oui, aller vite, c'est pas forcément une qualité chez un cuisinier, quoi.
Ah ben, il faut prendre son temps quand même. Il faut prendre son temps pour tout tester, les équilibres, etc. Non, il faut prendre son temps.
Alors, Hélène et Jean-Sébastien, oui. Laissez-moi vous présenter Mireille, qui est à Ablon, du côté d'Honfleur. On est dans le Calvados. Mireille, bonjour.
Bonjour.
Et bienvenue sur RTL. C'est un défi frigo un petit peu particulier et vous allez doublement comprendre pourquoi. Parce que Mireille, vous avez décidé de nous appeler pour nous proposer un ingrédient de votre frigo, mais on va être tout à fait honnête, ce n'est pas vous qui cuisinez à la maison, c'est plutôt votre mari. Est-ce qu'il est avec vous, Franck ?
Oui, il est là.
Bonjour, je suis là, bonjour.
Voilà. Franck, bonjour, bienvenue dans RTL, vous régale. C'est vous qui avez la main en cuisine, Franck ?
Absolument. Et je suis très admirateur d'Hélène Darroze.
C'est gentil, merci.
Et j'imagine que vous la suivez dans Top Chef sur M6.
Oh oui, et avec Mireille, on s'est dit que la prochaine fois qu'on vient à Paris, on ira dans ce restaurant Joya. Parce que ça nous fait très envie.
C'est gentil.
Merci pour elle. Alors,
J'espère qu'elle va battre Philippe Echebest.
Il va pas être content s'il vous entend. Hein.
Faut d'abord qu'elle batte Jean-Sébastien Petit-Demange.
J'aime aussi, mais je préfère les arroses.
Bon alors, Franck et Mireille, avant de parler de ces deux recettes originales, Jean-Sébastien et Hélène auront 1 minute 30 pour les imaginer. Il va falloir que vous nous disiez ce que vous avez imaginé comme ingrédient. Qu'est-ce que vous avez dans votre frigo qui sera l'objet de ce défi ?
Alors, j'ai du fenouil.
D'accord.
Mais c'est pas simple parce que j'aime pas tellement ni le cuisiner, ni tellement le goût. Je le mets quand même un peu parce que j'essaye, mais je trouve que c'est difficile à cuisiner.
D'accord, donc c'est un vrai défi. On vous promet deux recettes pour le moins originales. 1 minute 30, montre en main. Après l'info, vous écoutez RTL. Le match Hélène Darroze, Jean-Sébastien Petit-Demange. C'est juste après l'info. RTL, il est 11.
RTL, 11h03. Et on vous retrouve, Jean-Michel Zeka, pour le défi frigo, c'est ça ?
C'est ça, exactement. Et puis, alors, vous connaissez, Sébastien Rouxel, cette maxime auvergnate qui dit « Qui a bu un cappuccino à 10h, boira un expresso à 11h
».
Merci pour les infos. Prochain point, tout à l'heure à midi sur RTL.
RTL vous régale.
Élu personnalité télé préférée des Français, il est aussi souvent attaqué. Michel Cymes, sans langue de bois, invité d'Orphée à la télé, c'est tout à l'heure, à 11h30.
Bon week-end avec RTL.
10h15, 11h30, RTL vous régale.
Jean-Michel Zeka.
Un défi frigo historique dans lequel ce matin Hélène Darroze affronte Jean-Sébastien Petit-Demange. Je me demande, c'est pas l'inverse d'ailleurs. Grâce à Mireille dans le Calvados qui, avec son mari Franck, nous propose du fenouil. Alors Franck, dites-nous, ou Mireille d'ailleurs, avec qui avez-vous décidé de démarrer ? Qui va vous révéler sa recette en premier lieu ?
On va commencer par les femmes.
Honneur aux dames.
Honneur à
Hélène Darroze dans l'exercice du défi frigo. C'est une grande première. Hélène, vous êtes prête?
Alors, j'ai combien de temps pour l'expliquer? J'ai une minute trente?
Alors, non, vous avez eu une minute trente, montre en main, dès que j'ai lancé le chrono.
Oh là là, d'accord, ok.
Qu'allez-vous faire avec du fenouil? Top départ.
Alors, je vais faire une tarte tatin. Je vais prendre les fenouilles, je vais les couper en quatre quarts. Je vais les faire revenir dans un peu d'huile d'olive dans une poêle. Et dans cette poêle ensuite, je vais zester avec un économe les zestes d'un pomelos, une orange sanguine et un citron. Et je vais également, après avoir assaisonné de sel et de piment d'Espelette, je vais verser les jus de ces trois agrumes. Et je vais laisser cuire comme ça à feu doux jusqu'à pratiquement... jusqu'à ce que les jus soient presque absorbés. J'ajoute aussi romarin, un peu de miel et du thym. Voilà. Et une fois que ça, que les fenouilles sont cuits et que le jus a quasiment disparu, je dispose mes fenouilles dans un moule à manquer. J'ajoute des copeaux de beurre. Et je recouvre de pâte feuilletée, comme on fait pour une tarte tatin, et je mets au four et je fais
attention,
cuire.
Attention, 5 secondes, c'est terminé.
Une fois que c'est cuit,
attendez, 5 secondes, allez-y Hélène.
Et une fois que c'est cuit, je rajoute une salade de fenouil cru avec de la poutargue assaisonnée avec du piment d'Espelette, de la fleur de sel et de l'huile d'olive.
Top, on lève les mains Hélène.
Ça y est, c'est fini.
C'est pas mal. Ah, moi, j'aime bien l'idée, j'aime bien la petite idée finale de la poutargue par-dessus tout.
Exactement, avec la salade de fenouil qu'on pose sur la tarte.
Côté iodé, c'est très bien, puis on connaît le mariage, hein. Fenouil, agrumes, généralement ça fonctionne pas mal. Donc là, la tatin de fenouil d'Hélène Darroze. Jean-Sébastien, je ne sais pas si vous voyez le niveau de la recette d'Hélène.
Ouais, je suis sûr qu'il va faire bien.
Franck et Mireille, vous en pensez quoi? Comme ça, d'un premier jet, si j'ose dire.
Ah, moi, je trouve que c'est alléchant, hein. Ça doit être très agréable à manger.
C'est pas mal. On va dire que c'est pas mal. Ouais. Face à Hélène, Jean-Sébastien Petit demange du fenouil, 1 minute 30, vous jouez votre destin.
Alors, on va prendre deux bols, en fait, ça va être très simple. Dans le premier bol, vous allez faire une sauce avec de la crème aigre, de la crème sort, vous en prenez 50 grammes. Vous mettez une cuillerée à soupe d'huile d'olive pour détendre, une cuillerée à café de sirop d'érable et un zeste de citron vert. Vous salez, vous poivrez, comme vous voulez. Vous mélangez tout ça, vous avez votre sauce qui est prête. Dans le deuxième bol, vous mettez 400 g de saumon frais coupé en petits cubes, avec des suprêmes d'orange sanguine. On y revient, 100 g. Vous prenez également le fenouil en bulbe que vous avez coupé. Vous l'avez passé à la mandoline et puis vous en avez fait une julienne. Vous l'avez coupé très très fin. Vous mélangez tout ça avec votre saumon, avec de la ciboulette ciselée et avec un jus de citron vert qui du coup va cuire le saumon. Vous mélangez un peu de sauce, la moitié de votre sauce avec votre mélange saumon, orange sanguine, fenouil. Vous faites griller du beau pain de campagne. Vous tartinez ce mélange sur votre pain de campagne. Vous rajoutez un peu de sauce dessus et puis vous allez pimper ça avec de la poudre de betterave qui va donner un petit côté terreux sur votre mélange fenouil, saumon, citron et orange sanguine. Vous allez voir, ça va faire plein de goût en bouche, plein de saveurs et plein de textures. C'est fini.
Ça s'appelle comment?
Ça s'appelle une tartine de saumon.
Une tartine de saumon aux agrumes avec un peu de fenouil.
Voilà.
Très bien.
Ça s'appelle comme vous voulez.
Oui, il y a du fenouil dedans, quoi. Vous avez rempli le contrat. Mireille et Franck. Oui, vous êtes en présence
de saumon, si vous voulez.
Oui. Si vous voulez, voilà. Donc voilà. On a une tatin de fenouil de niveau mondial. Et Jean-Seb, ose la simplicité.
Un tartare de saumon de niveau
international.
De niveau du studio.
Bien sûr. Allez, c'est la tartine de nuit. Ah, voilà, c'est ça. Bon, Mireille et Franck, qu'est-ce que vous en pensez? Vous savez que c'est vous qui allez devoir choisir.
Une grosse pression. Hein.
Énorme pression, évidemment.
Alors, je reconnais que c'est pas le même niveau, mais le... Si je dois aller le manger, je prendrais peut-être Hélène Darroze, mais si je dois le cuisiner, parce que c'est ça le but, c'est que je le cuisine moi-même, je trouve que Jean-Sébastien, c'est simple et ça a l'air très bon ce qu'il a fait.
Donc alors, vous êtes en, Franck, vous êtes en train de nous dire que vous allez choisir la recette de Jean Sable.
Je suis embêté parce que je
ah bah attends,
j'ai peur de pas avoir le niveau pour faire la recette d'Hélène.
Hélène.
Oui, alors voilà, Franck est toujours, lui, c'est qui commande en cuisine.
C'est lui qui commande en cuisine, donc on est en train, d'expliquer à Hélène Darroze.
Je sais pas comment le dire.
Qu'elle est battue au défi
frigo. C'est pas grave, hein. Si, si. Toujours comme ça, voilà.
Attendez, attendez, attendez. Franck, j'avais pas
vu. Je suis bonne perdante. Je suis bonne perdante, mais j'espère que je ferai la tartine à midi, au déjeuner, on sait jamais. Je vais couper. Ça a l'air
Hélène,
pas mal, donc.
Hélène. Hélène Darroze, c'est tout à votre honneur. C'est tout à votre honneur. Parce qu'être battu avec une tatin de fenouil sur une tartine qui est un tartare de saumon, je voudrais pas en rajouter, Franck, mais n'empêche. Vous savez, Hélène, en plus, vous ne le savez pas, mais je vous l'apprends. Vous avez un point commun avec Franck,
ouais.
Hélène.
Alors, dites-moi.
Vous avez, parce que, si vous voulez, on doit à l'honnêteté de dire que Jean-Michel a odieusement triché la semaine dernière en m'affrontant, donc il fallait que je lui rende l'appareil.
J'ai fait appel à Mathieu Van de Velde de Top Chef. Voilà mes origines belges m'ont trahi.
Bonjour Stéphane Rottenberg.
Bonjour à tout le monde. Hey, j'espère que mon accent est lucide, a mystifié tout le monde. Et Jean-Sébastien, ta recette est scandaleusement nulle.
Ah oui. La vérité devait éclater à un moment donné.
Merci Stéphane.
Pour le jeu, j'étais au bout, je t'ai promis que j'allais te faire gagner, mais franchement, on aurait pu faire un effort.
Hélène, on doit aussi à la vérité de dire que vous n'aviez absolument pas reconnu Stéphane Rottenberg.
Ah ben non, pas du tout.
Je tiens bien mon accent quelque part entre Nice et Avignon.
Hein. C'est
mais
pas mal.
J'allais vous le demander, il sort d'où cet accent de nulle part? C'est-à-dire que je vais vous proposer de fenouil.
C'est génial de vous avoir tous les deux parce que ça permet de parler des audiences canonissimes de Top Chef de cette nouvelle saison où vous éclatez.
Ah, c'est grâce à Hélène.
Mais cela dit, Mireille, grâce à Stéphane et surtout grâce à nos deux protagonistes, vous venez d'empocher une carte cadeau Lidl d'une valeur de 300 €. Vous savez que Lidl soutient les producteurs français et qu'à l'occasion de cette semaine qui était dédiée aux agriculteurs français sur RTL, on va vous offrir aujourd'hui cette carte cadeau Lidl. 300 € à dépenser dans l'un des 1500 magasins Lidl partout en France. Lidl, le vrai prix des bonnes choses. Voilà, vous en ferez bon usage.
Eh bien, je vous remercie beaucoup. Ça a été très agréable comme mission.
Ouais, et puis surtout, vous venez d'épouser Stéphane Rottenberg. Ça, vous ne le saviez pas.
On est mariés. J'ai enlevé ce mari virtuel. Voilà.
On vous fait un gros bisou, Mireille. Passez un très bon week-end à l'écoute d'RTL.
Merci beaucoup à vous.
Alors, Stéphane Rottenberg, qui au prochain karaoké s'emparera du micro pour entonner Ne m'appelez plus jamais Franck.
Elle est pas mal.
Franck Rottenberg. Merci beaucoup.
Merci à tout le monde. J'embrasse Hélène très fort surtout.
Ouais, gros bisous.
Merci beaucoup.
Aussi à la radio. Voilà.
À bientôt sur RTL. Hélène Darroze, vous nous feriez l'amitié de rester avec nous?
Oui, on va rester.
Parce que je le disais, depuis une semaine, RTL met à l'honneur le Salon de l'Agriculture, virtuellement. Évidemment, on était avec Pierre Oteiza la semaine dernière. Je sais que vous, c'est quelque chose qui vous intéresse beaucoup. On va parler de cuisine avec vous aussi, de restauration, parce que c'est difficile pour tout un secteur. Vous restez avec nous pour la dernière partie de cette émission. Hélène Darroze est en direct dans RTL. Vous régale d'ici quelques instants la suite. On a mangé le soleil en attendant son retour officiel pour le printemps. Voici ses phases sur RTL. Merci de nous suivre. RTL vous régale tous les samedis, 10h, 11h30. Quel bonheur.
Je me suis acheté un chien, ça me tient chaud les verres. Je me suis acheté une veste, comme l'année dernière. J'ai fini mon assiette, je ne suis pas seul sur terre. Et j'ai un téléphone qui fait de la lumière. Comme l'année dernière, Ma veste se démonte, je la laisse à l'abbé Pierre. J'ai mangé mon assiette, j'ai remis le couvert. J'ai goûté au futur, il a un goût amer. On a mangé le soleil, on a mangé les étoiles, on a mangé le ciel, et on a encore la dalle. Alors on va manger la lune, tard après tout, on peut se nourrir d'espoir. La 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 la, 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 la la. J'ai croqué la vie, avalé les pépins, j'ai dévoré l'ennui, mais j'ai encore faim. J'ai léché les trottoirs, la faim jusqu'à la fin. J'ai voulu arrêter, mais je me suis bouffé les mains. On a mangé le soleil, on a mangé les étoiles, on a mangé le ciel, et on a encore la dalle. Alors on va manger la lune.
On a mangé le soleil, ses phases sur RTL avant de retrouver Hélène Darroz dans la suite d'RTL vous régale. Ne bougez pas.
Tout de suite, retour de RTL vous régale.
Bon ben on est installé, hein, on est en salle d'attente oui. pour notre consultation avec Michel Simès. C'est dans quelques minutes, là, 11h30. Hein.
Ben oui, je sais, vous savez qu'il ne fait pas du tout les maladies mentales. Hein.
Je ne sais pas comment je dois le prendre, mais à mon avis, c'est... plutôt mal.
Mais non,
le temps
bien.
De se parler en antenne et on se retrouve à 11h30 pour refaire la télé avec
pourtant,
Michel Simès. Mettre mon entonnoir sur la tête.
Jusqu'à 11h30, RTL vous régale.
Avec Jean-Michel Zeka.
Avec Jean-Sébastien Petit-Demange et Hélène Darroz qui est à nos côtés également ce matin en direct dans RTL vous régale. Hélène, on parlait du Salon de l'agriculture, ce salon virtuel que nous avons recréé la semaine dernière dans cette même émission. Mmh. Rendez-vous des producteurs de toute la France. Vous avez justement déclaré le confinement. Il faut se dire que c'est une vraie opportunité de réflexion. Il faut qu'on privilégie de plus en plus une agriculture locale, de proximité, une agriculture française. On va s'en parler. Il y aura des exemples à donner. Vous imaginez ce que vous appelez la cuisine du monde de demain déjà ?
Oh, je sais vers où je vais aller. Après, est-ce que tout le monde va aller dans ces directions? J'en sais rien. Mais en tout cas, je pense que oui, notre responsabilité à nous, chefs de cuisine, elle a toujours été là, hein, mais elle l'est de plus en plus. C'est d'abord des produits de saison et puis des produits issus de circuits courts, quoi. Hein. Il faut vraiment d'abord supporter, aider nos petits producteurs, ceux qui sont autour de nous, ceux qui sont pas loin de nous, et puis par responsabilité par rapport à l'environnement, il faut travailler les produits qui sont à notre portée, qui sont au bout de notre main.
Mais ça veut dire, Hélène Darroz, si je vous comprends bien, qu'on va s'interrompre dans cette course effrénée contre la découverte des goûts du monde.
Alors. Non, parce que c'est compatible. Hein. On peut très bien adapter le goût du monde à un poireau qui est produit en Île-de-France. Quoi, c'est pas au niveau du goût, tout est compatible. Moi, là où on doit être responsable, c'est nous chefs. Pourquoi aller cuisiner le king crab des pays du Nord alors que on a des crabes magnifiques en pays breton? Voilà. Pourquoi aller chercher, j'étais la première à le faire, du caviar en Chine, certes, qui est très bien fait, qui a plein de qualités, etc., alors qu'on a du caviar en Sologne ou en Aquitaine. Voilà, c'est ce genre de responsabilité-là qu'il faut qu'on prenne. Et voilà, je pense que il faut qu'on ait cette démarche-là de plus en plus. Et Voilà, moi par exemple sur mon restaurant à Londres, depuis quelques années, mais depuis quelques mois encore en plus en particulier, je me sers moins dans mon sud-ouest natal et je regarde un peu ce qui se fait plus en Grande-Bretagne, qui a fait beaucoup d'efforts avec ses petits producteurs, avec ses petites productions, et je trouve mon bonheur.
Hélène, j'ose pas imaginer votre agenda, le timing, etc., en temps normal. Mais est-ce que vous avez le temps d'aller à la découverte de ces producteurs à travers la France ?
Oh bah écoutez, là, j'étais en vacances, j'ai pris quelques jours de vacances là pendant les vacances scolaires avec mes filles dans le Pays Basque et je suis encore allée visiter des fromagères extraordinaires. De rencontrer des pêcheurs. Oui, en général, mes vacances sont un peu d'ailleurs calculées en fonction de ça, quoi, en fonction de découvertes que je peux faire autour de la cuisine ou autour de producteurs.
Le boulot vous rattrape toujours à un moment donné, donc.
Mais ça, c'est pas du boulot, c'est vraiment du plaisir. Quoi. Enfin, c'est pas du boulot.
C'est une période difficile pour le monde de la gastronomie et c'est un petit peu paradoxal parce que c'est à ce moment-là que vous vous êtes récompensé pour votre travail et celui de vos équipes. Le guide Michelin vient de vous faire passer de 3 à 5 étoiles. Vous êtes la deuxième femme la plus récompensée au monde grâce à une cuisine plus émotive que technique. On vit ça comment dans cette période justement très bizarre ?
Alors, on vit ça d'abord avec beaucoup de bonheur, hein, parce que j'imagine. C'est quand même si, voilà, enfin, je m'attendais pas vraiment à avoir une émotion comme ça, surtout pour la troisième étoile, hein. J'imaginais pas que ça pouvait être, une émotion si forte. C'était un truc assez dingue. Mais après, c'est vrai qu'on le vit avec beaucoup de frustration, parce que, par exemple, cette troisième étoile de Londres, je n'ai toujours pas vu mes équipes pour la célébrer avec eux. Donc, j'ai pas pu aller à Londres. Donc, c'est très frustrant. Et puis surtout, je peux pas en faire profiter mes clients, quoi, mes convives, ceux qui viennent me voir chaque fois. Alors, on reçoit de leur part plein de petits mots d'encouragement gentils, de félicitations, etc. Mais en même temps, on peut pas la vivre, quoi, cette troisième étoile ou cette deuxième étoile à Paris. Donc, c'est assez frustrant. C'est assez frustrant.
Un mot sur le fait que vous soyez justement une des rares femmes à atteindre cette piste aux étoiles. Parce que ici, jusque-là, je pense que seule Anne-Sophie Pic, hein, je me trompe pas, avait atteint ces... En France, en tout cas.
Oui. En France, oui. Je crois qu'il y a 7 femmes au monde qui ont 3 étoiles. Pourquoi si peu de femmes ? Parce que c'est le reflet de ce qu'il y a dans nos cuisines. C'est vrai que il y a très très peu de femmes chefs dans les cuisines gastronomiques. Je parle dans les cuisines de restaurants gastronomiques parce que cela impose à un moment donné de faire certains choix au niveau de la famille qui sont pas faciles à faire et
Est-ce que vous voyez plus de jeunes femmes arriver dans ce milieu très fermé, souvent, vous le disiez, à juste titre, réservé aux hommes ?
Il y a eu un vrai accélérateur il y a quelques années, et aujourd'hui, on est à peu près sur un niveau de 20-25%, je dirais, qui n'évolue pas forcément énormément, quoi.
Je pose la question parce que vous dites quand un homme cuisine, il veut d'abord montrer ce qu'il sait faire, alors qu'une femme, j'ai l'impression qu'elle veut tout simplement faire plaisir.
C'est vrai que, c'est vrai que je trouve que les hommes travaillent beaucoup plus d'abord dans la technique et ensuite mettent des émotions un peu sur la technique, et alors que la femme elle est beaucoup plus dans l'instinct, dans l'émotion, dans le don de ce qu'elle a envie de partager et ensuite elle met la technique dessus. Mais au-delà de ça, j'ajoute aussi toujours derrière que il y a quand même des chefs hommes qui pour moi sont extrêmement féminins, on va dire, hein, quand je pense à un Pierre Gagnère, à un Michel Brasse, voilà, c'est des
c'est gens marrant que vous c'est marrant que vous citiez pas émotions. C'est marrant que vous citiez pas Philippe Etchebest. Hélène Darroze, vous depuis 6 ans non je roule charrie depuis 6 ans dans Top Chef sur M6, une Hélène bienveillante, je sais pas si vous êtes bien consciente que la France entière vous connaît aujourd'hui et vous adore.
J'en suis pas. Enfin, c'est sûr que la vie a changé, hein, depuis que. La vie a changé. C'est vrai que on m'arrête un peu plus dans la rue depuis Top Chef, mais
Et c'est pas la sortie de votre prochain livre qui va arranger l'affaire. Hein. Ça va s'appeler Chez moi, printemps-été. Ça arrive prochainement. Voilà.
Exactement, au printemps. À bientôt, dans quelques semaines.
C'était un bonheur de vous avoir avec nous. On vous embrasse, Hélène. À bientôt.
Merci
et à rendez-vous dans Top Chef.
Et au revoir. Et bonne santé à Louana. On le fait beaucoup.
On lui fait un gros bisou. Prenez soin de vous aussi, Hélène Darroze. À bientôt.
Merci.
Au revoir.
Au revoir.
Et n'oublions pas, comme on était à Clermont-Ferrand, c'est quand même la mère Brasier qui a été la première à avoir les trois étoiles.
C'est bien de s'en souvenir. Oui. À tout de suite sur RTL.
RTL vous régale.
10h15, 11h30, RTL vous régale.
Jean-Michel Zeka.
Merci d'avoir passé votre début de week-end avec nous. RTL vous régale, nous serons de retour la semaine prochaine. Jean-Sébastien, nous ferons escale.
Nous allons partir pour les Ardennes et pour Charleville-Mézières.
C'est une bonne idée. On refait la télé dans un instant. Jade et Eric Dussard reçoivent Michel Simès. RTL vous régale est à réécouter sur l'appli RTL. On vous embrasse. À la semaine prochaine.